ce de Tours, on a balayé un peu l'expérience des Tours depuis Cœur Défense jusqu'au Tour qu'on est en train d'étudier maintenant, dont certaines d'ailleurs qui sont faites pour des sites comme Paris.
Parce que nous, a priori, on se centre plutôt sur Paris, même si ça serait peut-être éventuellement de faire des intéressant de faire des comparaisons, par exemple, avec des villes où elles sont beaucoup mieux. Enfin, où la perspective est différente. Par exemple, je pense à la City à Londres, ou quelque chose comme ça, ou beaucoup plus.
Quand on parle de Paris, il faut voir de quoi on parle aussi, parce que j'étais en train de regarder ce que le président de la République vient de terminer juste il y a une seconde dans son discours sur le Grand Paris. Et son discours, c'est « il n'y a plus de Paris ». En gros, ça commence comme ça. C'est-à-dire que la dichotomie traditionnelle Paris et région parisienne, Paris-banlieue, s'efface derrière une grande région métropolitaine, comme à Londres. Puisque Londres, on ne parle jamais du Londres, mais du Great London, qui est une autre notion. Et en France, on a traditionnellement, du fait des enceintes successives, considéré qu'il y avait Paris et la banlieue. Et le projet qu'il vient de présenter, la pendant une heure à la Cité d'Architecture, vise à faire tomber les limites entre Paris et la banlieue, à considérer qu'il n'y a plus qu'un territoire, un territoire urbain, qu'il faut amener avec évidemment des parties centrales, sachant aussi que le rôle central que jouait Paris par rapport à la région est perdu au profit d'une région multipolaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul pôle et une région, il y a une région avec des pôles. Lui, il identifie 7.
D'accord.
Donc c'est un schéma quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus moderne que Paris et la banlieue, dont on n'arrive pas à sortir quand même. Quoi. Et que ce soit la gauche ou la droite qui gouverne cette ville, il n'y a rien à faire, on n'en sort pas. Et au contraire, on renforce les mesures qui rigidifient cette notion de Paris et sa banlieue, quoi. Notamment les périphériques successifs. Quoi. On n'arrête pas de faire des enceintes. Il
n'y
a plus que les Chinois et les Français qui font ça. À Pékin, ils en sont au 8e périphérique. On en fait 8. On en est au 3e.
Ça fait déjà pas mal.
Et Monsieur Huchon, tout à l'heure, en présentait un nouveau, puisque sa seule idée de la connexion ferroviaire de la région parisienne, c'est un périphérique de plus. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment un archétype dont on n'arrive pas à sortir. Alors que le projet de Christian Blanc, au contraire, est beaucoup plus subtil, puisque ce réseau de transport ne fait pas un anneau de plus, il fait un circuit qui parcourt la région et qui relie les pôles, et qui finalement, on l'appelle le Grand 8, parce que ça ressemble à une espèce de 8 entrelacé, mais il n'y a pas la volonté de créer un anneau supplémentaire dans la région pour insérer le... Voilà. Et donc du coup, j'aurais bon, parce que quand vous me dites « faut-il construire des tours à Paris ?», aujourd'hui, la question c'est d'abord de savoir de quel tour on parle, et ensuite de quel Paris on parle.
Justement, on s'est intéressé principalement à trois types de tours, les tours... plus axé banlieue, c'est-à-dire logement, surtout le logement, les tours à la Défense, qui ont un statut particulier puisqu'elles sont beaucoup mieux acceptées, et la tour Triangle. C'est vraiment ces trois types de tours sur lesquels on s'est focalisé.
Comment vous voulez faire? Vous voulez me poser des questions ou vous voulez que je vous parle comme ça?
C'est comme vous préférez. Enfin, a priori, on a préparé quelques questions, disons, qui nous... quelques axes sur lesquels on s'est intéressé.
On a trois questions... Qui vont nous servir vraiment pour construire notre site. Du coup, il faut qu'on vous les pose. D'accord. Et sinon, c'est vraiment une discussion.
Bon, je continue pas à deux minutes. Après, vous posez des questions. Je vous donne ma vision globale de la question des tours et de Paris. D'abord, il faut savoir que Paris, puisque vous parlez de Paris, Paris est aujourd'hui soumis à un plan d'urbanisme qui a été voté par l'équipe de Delannoy lorsqu'elle a été mise en place, ce que tous les Parisiens ignorent en général, dont le but est de faire décroître la densité de la ville. C'est écrit en préambule du PLU. Donc, sous la pression des Verts, la densité de Paris doit décroître.
Ça date de quand ?
Ça date de l'élection de Delannoy. Donc, comme vous savez, les mandats municipaux sont de 6 ans. Comme il a été élu il y a 2 ans, ça date de 8 ans.
D'accord.
6 plus 2. Et donc, tout le monde est allé dire, et moi le premier à Delannoy, que toutes les villes depuis l'Empire romain dont la densité a décru ont décliné et ont disparu de la carte. Donc déjà, la décision politiquement de faire décroître la densité d'une ville est éminemment contestable, voire mortelle pour la ville. Comment voulez-vous attirer des investissements si, après avoir investi, vous avez moins de choses que ce que vous en aviez avant d'avoir investi? Parce que la décroissance, c'est ça, c'est de faire décroître la valeur des terrains et la quantité des choses bâties. Donc le PLU part de ce principe. Et c'est un principe totalement politique que le Parti Vert, qui était dominant dans la première mandature, a inscrit dans le PLU, au sens où la croissance de la ville et sa densité est trop élevée. C'est-à-dire le point de départ politique, au moment où la politique et l'urbanisme se rejoignent, si vous voulez, dans le statement que l'on met au départ, c'est que les Verts ont dit, dans cette ville de Paris, nous avons une densité des plus importantes du monde, il faut la faire décroître. La densité est un facteur d'inconfort de la ville. Et ça concerne directement la question des tours, puisque les tours sont un effet de la densité. C'est-à-dire que la densité de Paris est une densité qui doit tourner. Paris est une ville qui fait à peu près 10 000 hectares, hein, c'est une ville qui fait 12 km par 8. Donc ça fait 12 par 8, c'est à peu près 10 000 hectares. C'est une ville qui contenait à peu près 3 millions d'habitants il y a 20 ans et qui n'en contient plus que 2,5 millions. Et si vous regardez si vous rapportez la surface bâtie de Paris à sa surface foncière, à son terrain, vous obtenez une densité qui est de l'ordre de 5. Hein. Et une densité d'ordre de 5, c'est une densité très élevée, effectivement, par rapport aux autres villes. Si vous comparez par rapport à Berlin, par exemple, vous allez trouver une densité de 2 à Berlin, vous allez trouver une densité de 3 à Madrid, vous allez trouver à Rome, est une ville de densité très élevée aussi. Donc c'est lié un peu à l'histoire et à la constitution du tissu des villes. Bon, Paris est une densité élevée parce que le tissu haussmannien est un tissu éminemment dense, qui a densifié énormément la ville. Et le tissu haussmannien a concerné à peu près la moitié de la ville de Paris. Et donc la question de la tour, évidemment, est venue à contresens à Paris, puisque cette équipe avait affirmé que son objectif était de faire décroître la densité. Or, la moindre tour fait exploser la question de la densité. C'est-à-dire, vous posez une tour sur un territoire, vous montez à 10, 12, 15 de densité immédiatement. Donc la question de la tour a été d'emblée évacuée par le présupposé qui était inscrit dans le plan d'urbanisme de la ville, indiquant que la densité de cette ville devait décroître. Alors.
Mais, enfin, désolé de vous interrompre, mais il me semblait que le maire de Paris pensait, n'était pas du tout opposé à la construction de tours. Il m'avait semblé même qu'il voulait justement enlever cette limite de 37 mètres ou, disons,
oui,
pouvoir construire des.
Ça, c'est ce qu'il dit, mais il faut aussi. Ce qu'il dit, c'est un peu d'importance. C'est qui compte, c'est ce qui est écrit dans les documents d'urbanisme qu'il a fait voter par la majorité municipale.
Et donc, c'est écrit textuellement que.
Dans le PLU. Je vous recommande la lecture. Voilà. Donc, ce qu'il dit, c'est autre chose, parce que comme, évidemment, tout le monde va lui dire que c'est con et que c'est pas comme ça qu'il faut gérer cette ville, il est très embêté avec cette question. Et donc, il tient des propos qui ne sont pas, en général, en conformité avec ce qu'il fait. Et en particulier avec ce qu'il fait voter. Donc, en tout cas, la densité de PLU dit ça.
D'accord.
Et donc, cette question, cette politique est menée maintenant à Paris depuis 8 ans, puisqu'il a été élu il y a 8 ans. Et donc, le résultat de cette politique est qu'elle est devenue très malthusienne pour la ville, et que les constructions ont pratiquement disparu de la ville, puisque le but étant de faire décroître la densité, on ne peut plus construire, puisque toute construction suppose a priori un accroissement de la densité. Donc, on ne construit plus, on n'agrandit plus, on ne surélève plus. Il y a très peu de bâtiments neufs en construction dans Paris, puisque ce que vous pouvez construire dans Paris est en général moins que ce que vous aviez antérieurement. Et le résultat de cette politique, c'est que l'offre a quasiment disparu de Paris, et notamment en matière de logement. L'offre, par exemple, vous verrez, si vous étudiez ça plus tard dans vos études, vous verrez que c'est un des effets de la politique immobilière.
Vous n'avez pas vu ça, je l'ai sur votre bureau.
D'accord. Vous verrez que les prix de marché, dans une situation urbaine, les prix de marché sont en fonction de l'offre et de la demande. Bon, quand vous avez une demande forte, ce qui est le cas à Paris, et que vous avez une offre faible, les prix augmentent. Voilà. C'est ce qui s'est passé à Paris depuis 5 ans, 6 ans. C'est-à-dire les prix n'ont pas augmenté à Paris, ils ont explosé. Et le petit immeuble qui est en construction à côté, là, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil, qui va être un zéro pointé d'architecture, là, et dans lequel il y a 64 logements qui vont être construits. On n'est pas dans un quartier de luxe ici, c'est un quartier tout à fait normal de Paris. Les appartements se vendent à 11 000 euros du mètre carré. Ce qui vous donne une idée de l'explosion des prix. Et cette explosion des prix, évidemment, vient de la raréfaction de l'offre liée à la politique de décroissance de la ville. Voilà, donc là, on a le tableau. Évidemment, ça embête beaucoup le maire, cette histoire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que la ville de Paris devient une ville, soit pour des gens qui ont les moyens de se payer des appartements à 14 000 euros du mètre carré, soit une politique de logements sociaux forcés, c'est-à-dire dans laquelle la ville impose à grand coup de subventions la création de logements sociaux, et encore en toute petite quantité. Puisque les logements sociaux qui ont été construits depuis 8 ans, par rapport à ceux qui étaient annoncés, c'est moins de 10% de ce qui était annoncé qui a été construit. Parce que pour construire des logements sociaux, il faut trouver des terrains. Ces logements sociaux sont soumis aux mêmes règles de densité que les autres logements. Et par conséquent, ils sont eux aussi réduits en possibilité de construire, hein, puisque les coûts sont baissés, etc. Bon. Et donc on en a construit peu. Donc la ville de Paris, aujourd'hui, a vu fuir sa classe moyenne complètement, qui s'est installée à Boulogne, à Issy-les-Moulineaux, dans toute la première couronne essentiellement. Et elle a vu arriver des gens très fortunés qui ont acheté des appartements, ou étrangers qui ont acheté des pied-à-terre dans les quartiers centraux, et une population peu fortunée, qui a peu de moyens, que l'on est obligé de maintenir dans les centres-villes pour des nécessités de service. Quand vous prenez, je ne sais pas, un policier, par exemple, qui gagne un tout petit salaire, qui commence son service à 5h du matin, vous ne pouvez pas le loger à 200 km de Paris. Vous êtes obligé de le loger à proximité de l'endroit où il passe son service. Quand vous prenez une infirmière qui termine à 1h du matin son service à l'hôpital, vous ne pouvez pas lui faire 3h de transport quand elle sort de l'hôpital, et ainsi de suite. Et donc, la ville a pris conscience qu'il y avait une nécessité de logements sociaux à construire pour les services urbains de proximité sur des gens qui avaient des petits revenus. Voilà. Et donc elle a beaucoup de mal à accomplir cette politique. Et Delanoë donc, s'est aperçu des résultats de cette politique. Parce qu'en matière d'urbanisme, les résultats des politiques sont à long terme. C'est-à-dire vous décidez d'une chose, mais votre décision n'est pas immédiatement visible sur le terrain. Il faut attendre 4 ans, 5 ans, 6 ans avant de pouvoir constater des effets de votre politique. Ce sont des systèmes à forte inertie. Et donc il s'est dit qu'il faut absolument reconstruire vite. Mais reconstruire vite, c'est pas possible. Parce que reconstruire vite, ça veut dire qu'il faut changer le PLU de Paris, ce dont il n'est pas question, refaire des enquêtes publiques, revenir devant les électeurs, etc. D'où l'idée de la tour. La tour est un instrument très pratique pour construire vite et beaucoup. Et seulement, il s'est heurté, l'équipe municipale, en tenant les propos auxquels vous faisiez référence sur les tours, s'est mise en flagrante contradiction avec sa propre politique. Donc elle a dit, ben, ces tours, on va les faire à la limite de la ville. On va les faire à Montreuil, on va les faire à Vendre, on va les faire à Aubervilliers, c'est-à-dire dans des endroits qui sont des endroits de relation entre la ville et la banlieue. Quoi. Voilà. Et encore faut-il trouver les terrains, faut-il trouver les investisseurs, etc. Et sachant qu'aujourd'hui, les tours, et notamment les tours de logement, ne sont plus des tours, tout le monde est d'accord pour concevoir que les tours ne sont plus destinées à des logements sociaux. C'est-à-dire une tour est par nature un bâtiment coûteux. Donc mettre des logements sociaux dans une tour, c'est quasiment impossible, à moins de les subventionner évidemment fortement, mais vous ne pouvez pas, avec des loyers de logements sociaux, amortir le prix de construction d'une tour moderne. C'est impossible. Donc la situation est très, comment dire, très difficile sur cette question des tours. Et les tours qui ont été annoncées sont plus des coûts médiatiques jusqu'à présent que de réels projets. La tour de la Porte de Versailles, c'est plus un coût médiatique qu'une réelle chance de construire jamais une tour à cet endroit-là.
Vous pensez qu'il y a carrément une chance qu'elle ne voit jamais le jour, cette tour?
Oui. Je pense qu'il y a plus qu'une chance. Je pense qu'il y a toutes les chances qu'on ne voit jamais le jour. D'abord, le foncier n'est pas convenable, il est trop étroit, il est trop petit. Et ensuite, s'exercera sur cette tour, comme elle est sur le territoire de Paris, ce qu'on appelle la participation démocratique de l'urbanisme, c'est-à-dire elle sera soumise à tous les recours de la population qui feront tout pour qu'elle ne se construise jamais.
Est-ce que vous pourriez éventuellement nous détailler toutes ces procédures de recours, nous dire un petit peu la façon?
Donc voilà, donc les tours, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est une situation. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que je voulais vous dire en préalable, c'est que les tours à Paris ont une mauvaise réputation, en particulier dans cette ville, et qu'elles n'ont pas volé cette mauvaise réputation. Bon, en gros, hein. D'abord parce qu'il y a eu deux tentatives. Pour caricaturer la situation, qui ont toutes les deux échoué. L'une, ça a été Montparnasse, qui participait d'un projet pompidolien dans lequel on devait construire trois centres de grande hauteur à mi-distance du centre de Paris, puisqu'à cette époque-là, dans les années 60-70, Paris était vu d'une manière très primaire, quoi. Le centre, la première périphérie, la deuxième périphérie, on employait des mots très schématiques pour décrire cet urbanisme. Et donc il y avait l'hypercentre de Paris, et il devait être construit trois quartiers comportant des tours, l'un étant Montparnasse, l'autre étant, si je me souviens bien, c'était sur la gare d'Orsay, je crois, le côté de la gare d'Orsay, au bord de la Seine, et le troisième était Place d'Italie. Mmh. Voilà. Donc Montparnasse a commencé, le deuxième était Saint-Lazare, c'était la gare Saint-Lazare. Et l'autre était Bercy. Voilà. Donc le premier qui a été fait, c'est Montparnasse. On a fait une grande tour à Montparnasse. On s'est aperçu que ça ne collait pas exactement, quoi, que, voilà, même si la tour n'est pas plus moche qu'une autre tour. Hein, mais l'idée de faire une tour là a été un véritable électrochoc pour la ville, pour les Parisiens. Moi, je m'en souviens, j'ai fait mon service militaire quand on a construit la tour Montparnasse. J'étais militaire au 5e génie militaire qui était en face de la coupole, et donc je voyais la tour qui se construisait là. C'était dans les années 70. Là. Donc ça a été un véritable électrochoc pour la ville de Paris, et qui a dit non, on ne veut pas de ça. Quoi.
C'est l'esthétique qui a choqué les Parisiens ?
C'est la rupture d'échelle, je pense. C'est-à-dire que Paris, du fait de cette forte imprégnation du bâti haussmannien, est une ville très réglée. Quoi. C'est une ville qui est réglée autour de 25 mètres de hauteur. Et c'est rare de trouver au monde une ville aussi uniforme en hauteur. Quoi.
Oui. Ce que je viens de déranger, je laisse en général les copropriétaires ce soir, donc je vais y aller.
D'accord.
Demain, je ne bouge pas, mais par contre, toi, tu es à Aix.
Moi, je suis à Aix demain.
Donc,
je t'appelle.
Voilà. Et j'ai eu Michel Bertrand aujourd'hui qui était en Russie.
Oui.
Donc, il va m'appeler demain par rapport à cette histoire et le cas et tout ça. Donc, j'ai suivi, je préviens la tête.
D'accord.
Bonne
soirée. Salut.
Bon.
Donc voilà, donc les tours ont mauvaise réputation. Donc c'était un véritable électrochoc pour les Parisiens qui se sont dit non, la ville, du fait de son homogénéité bâtie, liée à la période haussmannienne, quand on a un objet qui brusquement sort du cadre, c'est presque un contresens. C'est apparu comme des contresens. Quoi. Et c'est à ce moment-là que l'idée est née de dire, ben, il faut créer un quartier où on va mettre toutes les tours. Et la Défense est née dans les années 63, puisque la tour Nobel a été construite en 63, je crois, ou 64, la première tour, et ainsi de suite. Donc l'idée a été de dire, non, on ne va pas mettre les tours dans Paris, on va les exporter sur l'Ouest, et on va créer un quartier dans lequel on mettra essentiel. Parce que les tours, à cette époque-là, c'était soit des tours de bureaux pour les affaires, donc à la Défense, on avait dit, on va mettre les tours de bureaux pour les affaires, soit des tours qui prolongeait la période de la reconstruction des années 50, qui étaient des tours conçues sur des modèles industriels de construction, enfin des modèles qui étaient d'ailleurs essentiellement français à l'époque, et qui étaient destinés à loger vite et bien, pensait-on à l'époque, aujourd'hui on pense plutôt vite et mal, des populations sans moyens. C'est-à-dire c'était des tours destinées aux gens sans moyens, c'était des tours sociales essentiellement. Et évidemment, comme on faisait dans une tour, arriver à éponger rien que dans une tour 300-400 logements, évidemment, il suffisait, quand on faisait 10 tours, on épongeait 5000 logements d'un coup. Quoi. Donc ça allait vite. Et comme à cette époque-là, les problèmes étaient surtout abordés en termes quantitatifs, c'est-à-dire, est-ce qu'on a réglé le problème du logement ? La question subsidiaire était, est-ce qu'on a logé tout le monde ? Alors on disait, a-t-on logé tout le monde ? Oui, alors donc on a réglé le problème du logement. Personne ne se posait la question de savoir si on avait bien logé ou si, dans quoi on avait logé, mais est-ce qu'on a logé tout le monde ? La réponse, oui. Donc, le problème de logement est avec les gens. Donc les tours ont poussé. Et les Parisiens ont vu pousser la tour Montparnasse. Ils ont fait ça. Ils ont vu pousser une douzaine de tours Place d'Italie, là-haut, en haut de la colline, qui était destinée au logement social et qui était d'ailleurs totalement industrielle, répétitive, monotone, sans esprit, sans architecture. Ils ont fait horreur. Et donc, ça s'est arrêté. Quoi. Et c'est Giscard d'Estaing qui, lorsqu'il a été élu président de la République, a dit, bon, les tours, c'est fini, on arrête. Quoi. Et il a fait, d'ailleurs, détruire des tours dont la construction commençait par les Italiens. Il a arrêté au moment des tours. Parce qu'il y avait vraiment une espèce de haut-le-cœur devant ce truc. Et donc, les Parisiens sont restés quand même sur cette impression de la tour, ça ne va pas. Paris et la tour, c'est pas ça. Quoi. Ça ne marche pas.
C'est un argument qu'on a retrouvé... Voilà. Énormément quand on a fait nos recherches, comme quoi la tour Montparnasse tranchait complètement avec le reste, etc. Mais est-ce que vous pensez que c'est irrémédiable ou est-ce qu'il y aurait moyen de construire, pas forcément en isolant les tours, mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen de construire une tour qui serait, disons, harmonisée avec ce qui l'entoure, ou est-ce que selon vous c'est juste pas possible ?
D'abord, il faut sortir de l'archétype de la tour qui est. Que l'archétype de la tour telle qu'elle a été bâtie jusqu'à présent, notamment celle dont on parle, la base d'Italie, ce sont des bâtiments solitaires, isolés, dégagés en leurs pieds, c'est-à-dire ils n'ont rien aux pieds, et monofonctionnels, c'est-à-dire ils servent à une chose à la fois. Quoi. C'est une tour de bureau, c'est une tour de logement, voilà. Et donc ça c'est l'archétype, je dirais, d'après-guerre. Quoi. Disons l'archétype 20e siècle, hein. Aujourd'hui, il ne faut plus parler de tours, il faut parler de bâtiments de grande hauteur. Ce n'est plus du tout la même chose. Hein. C'est-à-dire que les tours, c'est fini, on n'en fera plus comme on les faisait avant. Belmont appelait ça des bâtiments solitaires. Il disait que c'était que les Joseph Belmont, l'architecte, disait que c'était des tours issues de la tradition du XVIIIe siècle français, c'est-à-dire cette espèce de désir de monumentalité de l'architecture. On isole le bâtiment et on l'expose de façon. Voilà. Donc ça, c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tours comme ça, on ne fera plus. Donc si, je parle de des situations centrales, hein, puisque vous parlez de Paris. Hein, bon. Donc aujourd'hui, on fera probablement monter du bâti, jusqu'à quelle hauteur, je ne sais pas très bien. Ça s'appellera pas une tour, et on ne parlera plus de densité, mais on parlera d'intensité. C'est-à-dire que l'intensité, c'est une notion qui va au-delà de la densité, c'est-à-dire que la densité, c'est un rapport de quelque chose à quelque chose. Alors, on peut dire, personne ne sait, quand on parle de densité, personne n'est capable de vous dire de quel rapport on parle, quels sont les termes du rapport, personne n'en sait rien. Disons que c'est la quantité de surface bâtie par rapport à la surface du terrain. Ça pourrait être aussi le nombre de personnes logées par rapport à la surface du terrain. Ça pourrait être, on peut imaginer que la densité peut se définir par toutes sortes de termes. Bon. Mais c'est aujourd'hui une notion qui est totalement insuffisante pour faire de l'urbanisme moderne. Bon. On ne peut pas construire une politique urbaine sur une notion de densité. Quoi. Et donc la densité, et en plus c'est un gros mot quand vous en parlez politiquement. C'est-à-dire, si vous parlez de densité à gauche, vous avez vu le résultat avec les Verts, je vous ai suffisamment raconté l'histoire de ce qui s'est passé dans le PLU de Paris. Et si vous parlez de la densité à droite, comment entasser les gens, mais enfin vous n'y pensez pas. Enfin, les réactions bourgeoises de droite sur la densité sont des réactions de rejet absolu. Comment la proximité, la promiscuité, la densité est associée à des notions d'entassement, de rapport, de proximité des gens les uns avec les autres, qui sont jugées comme profondément repoussantes. Quoi. Donc la densité, ça ne marche ni à droite ni à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est l'intensité ? L'intensité, c'est une notion postérieure à la densité, c'est-à-dire qu'elle part de la densité, évidemment, l'intensité, mais elle suppose que la ville n'est pas seulement dense, au sens où elle va accroître sa quantité bâtie, mais elle va devenir intense, où elle va accroître la vitesse de son fonctionnement et la proximité de ses fonctions. C'est ça l'intensité, c'est-à-dire que... Et elle va se poser la question de la manière dont elle fonctionne, et non pas seulement dans la quantité de surface qu'elle bâtit. Pour vous donner un exemple trivial, dans l'idée d'intensité, si je construis un parking, par exemple, ce parking dans la notion 20e siècle de densité, c'est un parking pour les logements, ou c'est un parking pour les bureaux, ou c'est un parking pour les centres commerciaux, c'est un parking pour les sorties le soir, etc. Si je construis un parking dans la notion du 21e siècle de l'intensité, eh bien c'est un seul parking qui va servir à toutes ses fonctions à la fois. C'est-à-dire qu'il va servir dans la journée, par exemple, au bureau. Le soir, quand les bureaux n'utilisent plus les parkings, il va servir au logement, c'est-à-dire aux gens qui rentrent chez eux et qui ont besoin d'un parking pour la nuit. Le week-end, il va servir aux gens qui viennent faire leurs courses et qui ont besoin de se garer en centre-ville pour aller au commerce, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'idée d'intensité procède de la notion où toutes les choses sont utilisées plusieurs fois et intensément. Et elle se complète, cette idée d'intensité, par une autre notion qui était jugée comme particulièrement poussante aussi dans le XXe siècle, qui est la mixité, c'est-à-dire l'idée... que les choses ne sont plus séparées les unes des autres, mais qu'elles sont les unes dans les autres. Et par exemple, donc, dans cette idée de tour dont vous parlez, qu'on a appelé bâtiment de grande hauteur, hein, on va admettre qu'un bâtiment une tour est faite que pour des bureaux ou des logements, etc., mais qu'un bâtiment de grande hauteur peut très bien contenir dans le même bâtiment des commerces en bas avec des équipements et des services, un hôtel un peu plus haut, des bureaux dans la partie moyenne et des logements tout en haut, par exemple. Et que ça, c'est dans le même bâtiment, ce qui était impensable avant. D'accord ? Donc ça, c'est une idée de mixité et d'intensité. Et effectivement, le résultat va être que pour atteindre, comme ces notions sont à regarder avec une autre constatation dont on s'est aperçu récemment, mais qui sautait aux yeux des bons observateurs, c'est que le territoire de la planète n'est pas illimité. Bon. Il faut dire que les Français sont mal logés pour ça, parce que les Français, la France est un pays, est un des pays d'Europe les moins denses d'Europe, hein, puisqu'il y a 60 millions d'habitants sur 550 000 km², c'est-à-dire à peu près 3 fois moins d'habitants que dans qu'en Belgique ou en Hollande, où la densité est de 400 habitants au km². Donc on a un pays particulièrement vide, quoi, en France. Et donc culturellement, les Français se disent... pourquoi se serrer, puisqu'il y a toujours de la place, donc étalons, quoi. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on n'étale plus, parce que d'abord, on se rend compte que le territoire est précieux, qu'on a besoin des terres pour faire autre chose, que de s'étaler, c'est consommateur, que ça gaspille le tout, que ça coûte très cher, parce qu'il faut, il faut tirer des infrastructures qui sont très coûteuses. Et donc là, brusquement, la notion s'est inversée. Donc aujourd'hui, l'idée est de dire... il faut accroître les services, les logements et les équipements et les constructions, mais sur des territoires de plus en plus petits. Bon, et quand vous mettez cette équation en mesure, ben vous obtenez un accroissement de la densité. Moi, je ne sais pas faire autrement. Hein. Mm-hmm. Voilà. Alors, on a beau écouter les Verts, on a beau écouter Delannoy, moi, je ne sais pas faire autrement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les Verts de Paris disent le contraire des Verts d'Île-de-France, ou inversement. C'est-à-dire, les Verts d'Île-de-France disent que ce que je vous dis. C'est-à-dire, attention, le territoire n'est pas illimité, il faut accroître la densité, etc. Mais construisons en hauteur, faisons attention aux choses, et contrairement au discours des Verts de Paris. Il faut dire qu'à Paris, on a des Verts très spéciaux quand même. On n'avait jamais vu comme ça. Hein. Donc, voilà. Et donc c'est très intéressant d'observer ces mouvements politiques, parce qu'ils ont des conséquences directes dans les politiques urbaines, évidemment, puisque ce sont eux qui établissent les lois sur lesquelles, après, la ville se développe. Et donc, on ne peut pas juger, il faut faire très attention, quand on parle de ces questions, de ne pas tomber dans la démagogie, parce que c'est très risqué. C'est demander l'opinion des gens, consulter la population sur des questions aussi subtiles, aussi complexes que ces questions, il faut avant bien informer la population avant de lui poser des questions. Sinon, elle répond n'importe quoi.
Et selon vous, comment est-ce qu'on peut informer la population? Enfin, si par exemple vous décidez de construire une tour à un endroit, comment est-ce que vous y prendriez pour que justement les gens comprennent que c'est pas juste on va mettre une énorme tour au milieu de...
Bah, je crois qu'il faut qu'ils y voient leur intérêt. C'est-à-dire que pour convaincre la population, c'est tout se juge en termes d'intérêt. Si la population a la conviction que le bâtiment qui est proposé leur permettra de vivre plus agréablement, plus confortablement, dans des espaces plus grands, dans une vie plus moderne, etc., je ne vois pas pourquoi ils s'opposeraient à ces constructions. C'est-à-dire que c'est la charge de la preuve est du côté des concepteurs. Si la population juge négativement les tours dont vous parliez, c'est parce que ces tours sont mauvaises et qu'elles n'ont apporté aucun accroissement de confort à la population en général. Et qu'aujourd'hui, une personne, si vous lui donnez le choix, préfère vivre dans un bel appartement haussmannien construit en 1832 que de vivre dans une tour place d'Italie. Ben oui. Et donc, si vous lui démontrez que de vivre dans une tour, c'est agréable, qu'il y a des espaces, qu'il y a des services dans la tour, que c'est une façon moderne de vivre plus confortable et plus en époque que de vivre dans un appartement haussmannien, je ne vois pas pourquoi la population s'y opposerait. Donc la charge de la preuve est du côté des concepteurs et des décideurs.
Et vous pensez, parce que les Parisiens ont quand même des préjugés vis-à-vis des tours, et il va peut-être falloir un petit peu de temps avant qu'ils acceptent réellement
ça, c'est clair. Donc il faudra...
Vous pensez que ça se joue
comme vous le constatez, ça ne se décoince pas. Quand même, ouais. C'est-à-dire, pour l'instant... on n'en voit pas de tour de la nouvelle génération qui est poussée. Et d'ailleurs, je pense que ces tours dont vous parlez, on ne les verra pas à Paris. Hein. Mmh. Les premières tours, on les verra dans la première couronne. Quoi. On les verra à Issy-les-Moulineaux.
Oui, les différents projets, je ne crois pas qu'il y ait de projet réellement à Paris. C'est à chaque fois une ville toute proche de Paris et qui fait le lien justement entre la banlieue et Paris.
Oui, je crois qu'on n'en a trouvé aucune à l'intérieur du périphérique. Quoi. Voilà.
Alors là, la mairie, la ville de Paris est en train, va lancer une consultation pour des tours tout au bout du quartier de Stolbiac-Masséna, là, à la limite du périphérique. Vous voyez, dans ces petits, il y a un petit espace de sol qui est entre le boulevard extérieur et le périphérique, là, qui est un endroit totalement pourri, parce que personne ne peut y aller, parce que c'est entre deux axes de circulation. Passer sous l'autoroute, enfin, c'est un bordel, ce truc. C'était un terrain qui était destiné à l'industrie, puisqu'il y avait c'est là où il y avait les cimenteries de, à ce moment-là. Donc là, ce terrain est récupéré par la ville et la ville propose d'y faire des bâtiments, des tours de logement de 50 mètres. Tours de logement de 50 mètres et une personne de passage. En ce moment, sur une tour de 50 mètres, pour logement, ça ressemble à ça.
Ça, c'est un projet pour.
C'est pour essayer de Molino, ça.
Donc,
ce sont c'est conçu comme des maisons superposées, en fait, avec des grandes terrasses, des jardins à l'intérieur, des très grands appartements. Il y a des services sur les premiers étages, il y a une crèche, il y a des services aux locataires avec des chambres partagées. C'est-à-dire, quand on va là-dedans, on est dans un autre univers plus moderne, plus généreux. Voilà.
Donc c'est vraiment un espace multifonction comme ce que vous présentiez avant. Oui. Et ça, c'est votre cabinet qui s'en charge ?
Oui. Donc on en a plusieurs à l'étude en France. Il y en a une à New York aussi à l'étude, qui est actuellement à la sortie du tunnel Lincoln Tunnel. Parce qu'à New York, aux États-Unis, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les grandes villes américaines, qui n'étaient pas habitées, les centres-villes, les Américains se précipitent vers les centres-villes, parce qu'ils ont terrorisé par l'idée de manquer d'énergie, et de manquer d'essence, manquer de trucs, par l'idée de continuer à passer des heures dans les transports, ce qu'ils ne peuvent plus supporter. Et donc, si vous regardez à Chicago, si vous regardez à New York, les bâtiments qu'on a le plus construits depuis 5 ans, ce sont des tours de logement. À Chicago, on a construit 12, je crois, depuis 3 ans. De logement et dans le centre-ville pour approcher pour que les gens souhaitent réhabiter le plus proche possible des centres.
Du coup, il y a des bâtiments qui sont détruits.
Oui. Mais vous savez, dans le centre-ville américain, il y a souvent des quartiers, vous savez comment c'est des quartiers, ça tout bouge tout le temps. Il y avait des maisons, des lots, comme on dit, des parking lots, des parkings. Donc on réaménage ça et hop, on construit des tours de grande hauteur, souvent des logements.
Et les Français, au contraire, ils ont envie de s'étaler. Donc c'est des mentalités complètement différentes.
Les Américains se sont beaucoup étalés avant nous. Puisque vous prenez une ville comme Houston, maintenant, ça fait 80 km de diamètre. Vous prenez une ville comme Los Angeles, ça fait 120 km de diamètre. Quand vous allez dîner chez les copains le soir, vous tapez 80 km. Mmh. Vous allez accompagner vos gosses à l'école le matin, vous tapez 40 km. Vous allez faire vos courses à 4 heures de l'après-midi, vous tapez 50 km. C'est-à-dire la journée normale d'une personne à Houston, c'est, je sais pas, 200 bornes par jour, quoi. 300 bornes par jour. Donc ça, c'est des modes de vie qui commencent à être totalement inadaptés à conditions de l'époque. Quoi. Donc les gens cherchent à resserrer leur périmètre de vie sur des distances et des temps de transport et de déplacement beaucoup plus petits.
Donc en fait, c'est un peu le même problème qui se pose à Paris quand on veut limiter l'étalement, mais à une beaucoup plus grande échelle. Quoi.
Ouais. Et donc les Américains sont beaucoup étalés. Et eux, évidemment, à puissance 10, la notion de territoire illimité que j'ai cité tout à l'heure, parce que... Et puis nous, on s'est étalé après eux. On s'étale toujours 10 ans après. On fait toujours les choses 10 ans après les Américains. Donc on s'est étalé 10 ans après eux. On a fabriqué des banlieues immenses, nous aussi. Hein. La région parisienne, maintenant, si vous regardez sur Google, là, vous allez voir, prenez une échelle, vous devez trouver 50 km à peu près. Quoi. C'est-à-dire, si vous prenez la limite du bâti qui est perceptible sur le disque constitué à la région parisienne, vous avez à peu près 50 km. Et 50 km, on a quand même un temps de transport, c'est 3 heures. Hein. En vitesse urbaine. Hein. Donc, si vous voulez parcourir la région parisienne, vous tapez 3 heures de transport. Il y avait une secrétaire ici qui travaillait ici, elle a heureusement déménagé. Elle a travaillé pendant 10 ans ici. 2h30 de transport le matin, 2h30 de transport le soir. Ça fait 5 heures par jour. Quoi. C'est une vraie folie. Quoi, faire ça. Parce que elle se dit, c'est vrai qu'elle avait envie d'habiter une maison dans la campagne, enfin, à la limite de la ville. Mais... Les temps de transport, c'est un supporteur.
Alors, une des questions qui nous travaille le plus, c'est est-ce que quand on veut construire une tour, il y a un ordre précis des gens à consulter ? Enfin, qui a envie de construire la tour ? Après, il va se renseigner vers qui sont les acteurs principaux et dans quel ordre ça se passe ?
Parler d'une tour de logement, une tour de bureau, une tour
dans je Paris. Sais pas s'il y a on peut faire une distinction entre.
D'abord, dans Paris, c'est interdit de faire des tours.
Aujourd'hui,
c'est interdit.
La petite couronne, voilà.
C'est pas permis.
La petite couronne ou la défense.
Aujourd'hui, c'est 31 mètres, 37 mètres, c'est bien, c'est pas permis. Hein, voilà. Vous parlez de la première couronne, c'est ça?
Vous parlez, ouais. Par exemple, les projets du côté de Massena.
Oui.
Massena, oui, c'est le moment. C'est la mairie de Paris.
Non, mais dans Paris, c'est interdit. Donc, il faudra faire une partie. Il faudra faire une exception, une dérogation au PLU de Paris, qui supposera d'ailleurs un vote du conseil municipal, ce qui n'est pas acquis. Parce qu'il n'y a pas de majorité pour faire des tours dans Paris, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, pour faire un tour à Masséna, il faudra faire voter le conseil municipal sur une dérogation. Donc, c'est pas sûr du tout.
Masséna, c'est dans Paris.
Ça, c'est pas dans Paris. Hein. Moi, ça, c'est ici les Moules. Là, hein.
Ah, d'accord.
Ici les Moulineaux, c'est pas Paris. Donc...
Oui. Voilà. Mais c'est vrai que Masséna, c'est.
C'est dans Paris.
C'est dans Paris. Même si c'est quand même.
Vous êtes dans Paris.
Je crois que là où ils veulent le construire, c'est juste à l'extérieur du périphérique.
En plus, regardez bien une carte, qui est ingénieur, vous verrez. Paris, c'est une ville qui a une forme un peu comme ça, oui. Voilà. Avec la Seine qui fait ça, comme ça. C'est comme ça, Paris. Hein. Et si ça, c'est le périphérique que je viens de dessiner, la limite de la ville de Paris fait ça, vous voyez. C'est-à-dire que contrairement à ce que croit le commun des mortels, il y a des parties de Paris qui sont à l'extérieur du périphérique.
Et elles sont quand même soumises au PLU,
etc. Bien sûr, c'est la commune de Paris. Et je ne l'ai pas fait par hasard, c'est que tout le nord de Paris, ici sur Saint-Denis-Aubervilliers, est à l'extérieur du périphérique. C'est-à-dire le parc du Millénaire, par exemple, se trouve à la Caisse des dépôts, là, le grand truc avec les AMJP, c'est pas sur Saint-Denis, c'est sur Paris. Avant aussi, une partie ici qui dépasse à l'extérieur du périphérique. Qui est au-delà. Voilà. Mais tout ça, c'est donc soumis à la loi de Paris. Donc là-dedans, c'est interdit.
Et Masséna, donc, c'est...
Masséna, c'est là, ici.
Donc, c'est la mairie de Paris qui a lancé le projet de faire un tour à cet endroit.
Mais il faudra une dérogation au PLU pour le faire.
Oui, mais enfin, en même temps, si c'est la mairie de Paris qui l'a lancé...
Ah oui, mais il faut une majorité.
Oui, c'est vrai.
Il faut une majorité, il faudra que le... Il faudra faire voter. D'accord. Et la majorité socialiste n'a pas la majorité à Paris. Il lui faut les Verts qui voteront contre, ça c'est sûr. La droite votera contre, et c'est pas sûr que ça passe. Mm-mm. Donc c'est pas sûr que ça marche.
Si on parle par exemple d'une tour à la Défense, ça se passe comment?
Vous n'êtes pas familière du tout de la réglementation. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un PLU. Hein. PLU, c'est plan local d'urbanisme. Mm-mm. C'est-à-dire, c'est un document qui règle le droit à bâtir. C'est-à-dire, chaque fois que vous voulez construire quelque chose à l'intérieur de Paris, vous consultez le PLU, et le PLU vous donne la densité, le droit à la densité. Le PLU donne des zones de vocation prioritaire, logement, bureau, commerce, etc. Donne des densités, ce qu'on appelle des COS, c'est un coefficient d'occupation du sol. Et donc il y a des COS de 3, il y a des COS de 2, des COS de 1,5, etc. Un COS de 3, ça veut dire par exemple que sur une parcelle de terrain donné, si la surface est S de cette parcelle, s'il y a un cos de 3, vous avez le droit de construire 3S. Okay, voilà. La manipulation des cos, au sens du terme, par une puissance politique, est essentielle sur le devenir de la ville, parce que c'est de ces cos que vont naître la ville future. Quoi. C'est par exemple, si vous dites à Paris, à partir de maintenant, le cos de logement est de 3, le cos de bureau est de 1, ça veut dire que dans les années qui vont venir, chaque fois que vous aurez un terrain, vous pourrez construire trois fois plus que la surface du terrain. Chaque fois que vous faites des logements, et chaque fois que vous faites des bureaux, vous ne construirez qu'une fois la surface du terrain. Donc la plupart des gens décideront de construire des logements, non pas des bureaux. Mm-hmm. C'est ce qui s'est passé. Et Paris a perdu 30% depuis 7 ans de ses surfaces de bureaux. Donc les bureaux ont foutu le camp. Ce qui est dramatique pour la ville. Et ça vous a pas échappé que les impôts venaient d'augmenter de 14% à Paris. Voilà. Je ne sais pas si vous payez les impôts fonciers, mais ça vous arrivera un jour. Et la raison pour laquelle ils ont augmenté de 14%, c'est que ces 14% sont les taxes que les bureaux payaient. La ville. Et ces bureaux, ils ont foutu le camp. À cause de ça. Voilà. Ils sont allés à Marne-la-Vallée, à Issy-les-Moulineaux, dans la banlieue périphérique. Et les surfaces libérées par les bureaux ont été occupées par des logements, réoccupées par des logements. Et en particulier dans le tissu haussmannien, qui subit très facilement les mutations bureau-logement. C'est-à-dire, un coup ça peut être des logements, un coup ça peut être des bureaux. Voilà. Mais quand un habitant s'installe à la place d'un bureau, il paye 4 fois moins de taxes à la ville que ce que payaient les bureaux. Donc la ville, du point de vue de ses revenus fiscaux, il perd énormément. Elle gagne des habitants, mais elle perd des taxes.
D'accord.
Et donc, c'est, donc le PLU fixe le COS, fixe les vocations, les tendances, les surfaces. Donc ce document d'urbanisme règle ça. Bon. Et c'est un document qui est soumis à enquête publique. Avant d'être, c'est très long de faire approuver un PLU, ça prend 2 ou 3 ans, il faut une volonté politique forte, puisqu'il engage aussi, le PLU, la valeur de tous les biens. C'est-à-dire, si vous possédez un terrain dans Paris, par exemple, selon ce que le PLU va préconiser pour votre terrain, ou votre immeuble, si vous possédez un immeuble, ou un appartement, le PLU va régler la valeur de votre bien. C'est-à-dire, si vous possédez un terrain et que le PLU vous applique un COS de 1 pour faire des bureaux, par exemple, vous allez gagner moins, votre terrain aura moins de valeur que si le PLU vous avait donné une valeur de 3. C'est-à-dire que c'est très délicat à régler, cette histoire. C'est-à-dire que le PLU définit la richesse future des propriétaires de l'ensemble des biens, qui soient publics ou privés d'ailleurs, l'ensemble des biens du territoire de Paris, de la ville. Voilà. Donc Paris est soumis à un PLU. Les communes périphériques de Paris sont elles aussi soumises à des PLU. Et le PLU est un instrument démocratique long qui suppose des droits de recours pour les utilisateurs, etc. Or, il y a des moments dans l'urbanisme où l'État décide qu'on n'a pas le temps, que c'est prioritaire pour le pays et pour la nation de faire des choses, et qu'on ne peut pas attendre d'avoir épuisé les droits de recours qui peuvent durer des années pour construire. Et par conséquent, on fait ce qu'on adore en France, on fait des lois d'exception. Voilà, on adore ça. Et donc, vous tirez un axe ici, là, comme ça. Voilà, ça c'est l'axe Est-Ouest de Paris. Vous franchissez la Seine ici, et vous tombez sur un territoire, ici, qu'on appelle la Défense, à l'ouest, voilà, qui fait 186 hectares, et qui est soumis à un truc qu'on appelle le PIG, ce que les Anglais appellent le cochon, évidemment, et qui veut dire plan d'intérêt général. C'est-à-dire que ce territoire-là est hors du droit commun. L'État l'a sorti du droit commun. Et ce sont les préfets qui délivrent les permis de construire, et les permis de construire sont délivrés sous l'autorité de l'État, et non pas des communes. Et la raison de fond, elle est de dire que c'est une priorité nationale. Voilà. Donc l'EHPAD, et on crée un établissement public, à la Défense, il y en a un qui s'appelle EHPAD, établissement public d'aménagement de la Défense, et cet EHPAD, cet établissement public, est chargé de régler l'aménagement et la distribution des droits à bâtir sur ce territoire, qui est soumis donc à ce cas particulier du PIG.
Du coup, les droits à bâtir, ils sont réglés au cas par cas, ou alors est-ce qu'il y a au cas par cas ?
Il n'y a pas de... Le COS dont je vous ai parlé n'existe plus.
D'accord. Ouais, donc c'est complètement, complètement différent de ce qu'il y a voilà. L'application.
Donc là, si vous voulez faire une tour, par exemple, c'est pas du tout la même chose que si vous voulez la faire là. Là, si vous voulez la faire là ou là, vous êtes obligé de respecter le règlement. Donc le règlement va vous dire, dans tel endroit, la hauteur est limitée à 50 mètres, à 70 mètres, à 100 mètres, à 120 mètres. Le COS est de 3, ou de 5, ou de 7. La nature de ce que vous pouvez construire sont des logements, des bureaux, etc. Donc le PLU va vous donner vos droits à bâtir. Ici, à la Défense, tout se dispute. Voilà. Donc, il s'achète. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, construire 120 000 m2, moi j'ai construit une tour à la Défense, par exemple, qui fait 200 000 m2 de bureaux, donc mon client, le promoteur, est allé négocier avec l'EHPAD l'acquisition des droits à bâtir, on appelle ça des charges foncières, est allé négocier avec l'EHPAD l'acquisition d'un droit à bâtir pour 200 000 m2 de bureaux. Et mon client a dû payer une somme à l'EHPAD correspondant à l'acquisition de ces droits. Et donc l'EHPAD touche cet argent, qui représente des sommes très importantes, et dépense cet argent pour l'aménagement du quartier. Construction de routes, de parking, de transport en commun, etc.
Donc en fait, parce qu'on est vraiment novice sur le sujet, donc, il y a un promoteur qui vient voir un architecte pour lui demander de construire tel projet.
Ouais.
Ensuite, il va voir l'EHPAD.
Vous parlez de la Défense, là.
Oui, pour la Défense.
Oui.
Qui lui donne ou non le droit de construire.
Voilà. Il négocie la valeur de ses droits. Il paye de l'argent, ouais. Échange de ses droits.
Et
ensuite, on dépose un permis de construire.
Et on ne demande pas l'avis
qui est géré par l'État.
Parce
que la Défense, c'est une forme de poire, comme ça, vous avez l'axe ici central, hein, la Défense. Là, vous avez l'arche de la Défense, ici. Là, là vous avez le CNIT, au bout. Vous voyez à peu près la forme que ça, la Défense. Hein. Une poire, comme ça. Là, il y a les grands cimetières, il y a le cimetière de Nanterre, ici, derrière. Ici, il y a la Seine qui passe avec le pont de Neuilly. Ouais. Là, vous avez la tour, la grande tour Framalton ici, la tour Nobel ici, là, les deux tours blanches que j'ai construites de Cœur Défense, là, la tour EDF, vous avez tous ces projets. Vous avez des logements sur la périphérie ici. Vous avez les grandes tours. Les grandes tours sont surtout de côté nord, hein, de la Défense. Le nord, c'est est-ouest. Est-ouest, et le nord est ici. Donc la Défense, donc c'est ce territoire-là qui fait 186 hectares, d'accord. Donc c'est sur ce territoire que si vous voulez construire une tour, hein, vous réservez un foncier, un terrain, et vous allez négocier avec l'EHPAD la construction. Mais ce territoire ici est divisé et sur trois communes. Là, cette partie-là, ici, est sur Courbevoie, la partie nord. La partie ici, ouest, est sur Nanterre. Et la partie sud ici est sur Puteaux. Vous voyez ? Et donc, les villes ont aussi des documents d'urbanisme qui s'appliquent à cette partie du territoire de la Défense. Et donc, une fois que vous avez donc obtenu l'accord de l'EHPAD, vous allez voir les maires des communes pour leur annoncer ce que vous allez construire. Mmh. Voilà. Et les maires des communes doivent mettre leur PLU en conformité avec les droits à bâtir de l'EHPAD.
Et la population n'est pas... Enfin, les habitants de la région...
Si, il y a des enquêtes publiques. Sur tous les permis construits, il y a des enquêtes publiques.
Et ça se fait après être allé voir les mairies ?
Oui, il y en a. Donc, dès que vous avez... Vous déposez un permis de construire, c'est un permis de construire État, hein, comme vous l'expliquez, donc il est déposé à la préfecture, avec DDE, et non pas à la mairie. Et c'est le préfet qui l'instruit, il y a une enquête publique sur le projet.
Et ça prend combien de temps, typiquement ?
Enquête publique ?
Oui, par exemple.
C'est 2 mois, je crois que le projet est exposé pendant 2 mois à la mairie. Il y a un commissaire enquêteur désigné par le gouvernement, et donc le commissaire enquêteur reçoit les observations de la population.
Et est-ce qu'à ce stade-là, il peut y avoir un recours qui annule complètement la construction de la tour, ou est-ce que c'est...
Oui, il faut que le recours soit fondé sur le droit. Un recours, ça ne peut pas être « j'aime pas, ça m'embête, ça me prend du soleil ». Il faut dire « oui, mais cette tour-là qui va se construire, elle n'est pas conforme à l'article machin de tel truc, ça se fonde sur le droit ».
Mais justement, comment est-ce qu'on peut le faire si c'est s'il y a un plan d'intérêt général ?
Excusez-moi, c'est l'ordre du jour pour lundi 14h, la réunion à Paris Habitat.
D'accord.
Et j'ai aussi tout un dossier pour Saxe. Est-ce que vous le regarderez lundi ou c'est pour l'Assemblée Générale ?
Parce que je devais appeler Abou Daram, Madame Abou Daram, ouais. Pour ce truc. Et je ne l'ai pas appelé.
Bon, ben, je ne sais pas. Vous voulez que...
Demain.
Vous m'appelez demain et moi je vous transfère.
Notez-le, hein, de l'appeler.
Oui, ben, je vous rappellerai. Vous voulez que je vous rappelle dans le... Ben,
non, pas dans non, le... quand j'arriverai avec ça.
Vous m'appelez, je vous rappellerai.
D'accord.
Quand
D'accord. Et vous me le donnez, vous le mettez dans mon...
Et Saxe, vous le prendrez lundi.
Oui, d'accord.
J'ai confirmé votre présence.
D'accord. Oui, donc les recours, il faut qu'ils soient fondés sur le droit. Quoi.
Mais vu que c'est hors du droit commun, à quel...
Ah ben si, il y a toujours... Alors, il y a ce qu'on appelle le RNU. Il y a toujours un droit qui s'appelle... Tous les terrains en France sont soumis d'abord au Code civil. Napoléonien, toujours le même, 1802. Voilà. Il est toujours vivant, celui-là. Donc le Code civil règle énormément de problèmes de propriété, de droit foncier. Je vous invite à la lecture, c'est un peu chiant, mais vous verrez, c'est très instructif. Donc vous lisez le Code civil, et le Code civil donne des règles de proximité, des règles de vue, des règles de recul de bâtiments les uns par rapport aux autres, des règles d'ensoleillement, et donne toute une série de règles qui sont toujours applicables. Le Code civil, on ne peut pas échapper au Code civil, c'est la base du droit. Donc le Code civil, en matière d'urbanisme et de propriété, d'architecture, donne des règles. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le RNU, Règlement National d'Urbanisme, qui est un règlement qui a été fait après la guerre et qui est le règlement minimum quand il n'y en a pas d'autre. Et donc là, comme il n'y en a pas d'autre, à la Défense, on applique le RNU. Par exemple, le RNU dit que la distance minimale entre deux bâtiments doit être de 8 mètres. Donc vous voyez ce que ça fait, deux tours de 200 mètres, 8 mètres de distance l'une de l'autre. Quoi. Voilà.
Ça fait
Wall Street.
Hein ? Et des, enfin, 8 mètres, et des rues à Paris qui font moins de 8 mètres de large.
Ouais, pas beaucoup. Hein. 8 mètres, c'est beaucoup. Hein. L'immeuble ici fait 10 mètres de large. Hein. 8 mètres, c'est pas beaucoup. Hein. Il y en a des rues qui font 8 mètres de large, bien sûr. Mais il n'y a pas une tour de chaque côté de la rue.
Ah oui, ça, vraiment.
Donc il y a toute une procédure de l'acquisition des droits. Et tout permis, les permis de construire en France, le permis de construire donc est déposé ou à la mairie ou là à la préfecture, il est instruit, il y a un délai maximum pour l'instruction, il est délivré, et après qu'il soit délivré, il y a un délai de 2 mois pendant lequel les gens peuvent déposer des recours contre la décision du permis de construire. Et le premier recours est un recours gracieux, pendant le premier mois, c'est-à-dire il écrit à l'autorité qui a délivré, celui qui contre écrit à l'autorité qui a délivré le permis de construire en lui disant je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. L'autorité, si c'est la mairie par exemple, lui répond, comme c'est la mairie qui a délivré le permis de construire, en général elle n'en voit pas être parce qu'elle considère qu'elle garantit le permis de construire. Donc si la mairie ne lui donne pas raison, à ce moment-là il dépose ce qu'on appelle un recours contentieux, c'est-à-dire il va au tribunal administratif et il dépose un recours contentieux contre le permis de construire. À ce moment-là démarre une procédure d'instruction du recours avec des juges, c'est une procédure d'instruction judiciaire, donc il démarre au tribunal administratif. Et ça peut durer longtemps. Moi, j'ai eu des procédures sur certains de mes projets qui ont duré 4 ans, 5 ans. Et pendant ce temps-là, le projet est bloqué. Hein.
Mmh. Y a un exemple de tour en projet, donc c'est la tour Signal. Et j'ai lu que la maire de Puteaux était la trouvait absolument horrible.
Oui.
Et donc elle était contre le fait de. Enfin, contre ce projet. Et est-ce qu'elle a un pouvoir quelconque pour dire. Parce que pourtant, au niveau de la législation, ça peut être compatible, mais c'est son avis personnel.
Non, parce qu'elle peut. Non, son avis personnel compte en tant que premier magistrat de la ville, mais elle est soumise à l'avis du conseil municipal de la ville. Hein, elle ne décide pas toute seule. Hein. Mais elle doit faire. Là, dans le cadre que je vous ai indiqué, elle peut faire beaucoup de problèmes à cette tour parce qu'elle peut refuser de mettre le POS, le PLU de Puteaux, en conformité avec l'acquisition de cette tour.
Et c'est le conseil municipal qui décide de ça.
Moi, par exemple, j'ai une tour à construire ici, là, qui s'appelle Majunga, qui monte à 200 mètres, et il a fallu mettre le PLU de Puteaux en conformité avec l'acquisition de cette tour, ce que la ville de Puteaux a fait.
Mais la ville a le droit, pour des raisons politiques, est-ce qu'elle a le droit de retenir, enfin d'empêcher de mettre le PLU en conformité sans autre raison que ça leur plaît pas, quoi.
Non, il faut une raison. Mais vous savez,
c'est facile à trouver.
On trouve des raisons. Hein. Puis en plus, il y a des contributions là aussi. C'est-à-dire que les bâtisseurs doivent payer à la ville de Puteaux des contributions financières que la ville argumente en disant mais pour votre tour ça va me coûter, il va falloir que j'améliore l'accès, que je construise une route, que je change, il y a des travaux de concession à faire sur l'énergie, etc. Donc le financier de la tour va devoir payer une contribution à la ville en échange de droits, en échange de la mise en conformité de PLU.
Le site qui était prévu pour la tour Triangle, il est dans Paris
ou
la tour Triangle.
Triangle, c'est la tour de.
À la porte de Versailles. Porte de
oui, dans Paris.
C'est dans Paris.
Oui, c'est dans Paris.
Donc pareil, il faudrait une dérogation.
C'est contre le parc de l'exposition. Hein. Et le terrain fait 13 mètres de large. Hein.
C'est tout.
Ouais. Oui, c'est une tour plate.
Parce que j'avais bien vu qu'elle était très. Très fine,
le terrain fait 13 mètres de large et 90 mètres de long. Ouais.
Mais c'est le terrain qui doit être construit ou c'est le terrain? C'est le terrain qui a construit.
Le terrain d'assiette pour construire la tour. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'à mon avis, elle avait très peu de chances de se construire jamais cette tour.
Alors, 13 mètres quand même. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre de proposer un projet comme ça.
Parce que à 13 mètres, ils vont avoir la place de mettre un bureau de chaque côté et puis. D'accord.
Je ne sais pas si ça vous a aidé, mais tout ça, mais.
Oui, c'est ça.
Ah, déjà, c'était très. Cette histoire du PLU et de la défense qui est à part, ça c'est. Mais est-ce que vous avez un exemple d'une tour qui a été bloquée comme ça, définitivement, qui avait
Paris.
Un projet à Paris ou dans la couronne pour cause de PLU
Ben, la défense, non. À la défense, les tours sont bloquées pour des raisons financières en général. Mm-hmm. C'est pas pour des raisons. Parce qu'à partir du moment où les tours sont annoncées par l'EHPAD et qu'elles font partie. Là, par exemple, l'EHPAD a décidé, il a annoncé ce qu'on appelle le plan de relance de la défense. C'est-à-dire que l'EHPAD a décidé que pour relancer, parce que c'est un quartier qui doit être tout le temps en mouvement, évidemment, et tout le temps en construction pour conserver sa modernité, parce que tous ces quartiers sont en compétition les uns avec les autres dans le monde entier. Quoi. C'est-à-dire la Défense est en compétition avec le quartier d'affaires de Francfort, en compétition avec la City de Londres, en compétition avec le nouveau quartier à Milan, avec, je pense, en Italie, en compétition avec Wall Street à New York, etc. Ces quartiers sont en compétition. Et donc, et ils attirent des compagnies qui sont internationales, c'est-à-dire qui se localisent dans toutes les grandes villes du monde. Et donc, pour conserver ça, leur force d'attractivité, ils doivent être en permanence en mouvement, moderne, offrir les meilleurs services, les plus belles architectures, enfin, être séduisants. Voilà. Et donc, ces quartiers ont cette caractéristique que dès que vous avez cessé de construire, c'est un peu ce que je vous ai expliqué à Paris tout à l'heure, c'est comme quand vous êtes à bicyclette, quoi. Si vous pédalez plus, vous tombez, quoi. C'est pareil, quoi. Donc là, si vous construisez plus, ben, vous perdez le terrain. Et donc, pour conserver leur avance, et notamment à la Défense, il faut continuellement construire. Et comme là, on ne construisait plus la Défense depuis un certain nombre d'années, on a imaginé ce qu'on appelle un plan de relance de la Défense, dans lequel 5 tours sont prioritairement inscrits dans ce plan de relance pour être construites par priorité.
Mais justement, vous dites qu'il ne faut pas s'arrêter de construire, mais enfin, la surface, elle est quand même limitée. Au bout d'un moment, il ne faut plus y avoir la place.
Oui, alors justement. Donc, les ingénieurs des ponts et chaussées, vos célèbres collègues, là, dans la folie des années 60-70, avaient imaginé la ville, pour eux, la ville moderne, c'était une ville faite d'autoroutes qui montaient, qui descendaient, avec des accès. C'est-à-dire, quand vous voulez aller à gauche, vous commencez par partir à droite, quand vous voulez aller à droite, vous commencez par partir à gauche. Enfin, une espèce de complexité qui était liée. Voilà. Et donc, ils ont construit une espèce d'usine à gaz, là, avec une dalle de 12 mètres de hauteur, une autoroute qui entoure tout ça. Et ça fait 5 ans qu'on s'acharne à casser ça. Et évidemment, le résultat de cette construction des ponts et chaussées a été qu'on a fait une île imperméable. C'est-à-dire, on ne peut plus passer comme ça. Quoi. C'est-à-dire, on a fait une espèce de territoire dont on ne peut plus rentrer ou on ne peut plus sortir que par les portes qui sont prévues à cet effet. Quoi. Donc, depuis 7 ans, on s'acharne à casser ça. Donc on casse l'autoroute, on l'a cassée déjà sur toute cette partie-là. Et on la transforme en ce qu'on appelle boulevard urbain. C'est-à-dire qu'on casse les pilaires, on casse les viaducs, on casse les pilastres. Ici, il y avait un énorme viaduc qui avait coûté très cher et qui s'enfournait sous le... On l'a cassé complètement. On a mis 2 ans à le casser. On est en train de casser ça, là. Et on les transforme en boulevard urbain, c'est-à-dire en boulevard normaux, avec des feux, des passages cloutés, que les gens puissent traverser, de façon à ce que ce territoire s'ouvre un territoire plus vaste, c'est-à-dire qu'en fait, la limite qui était constituée par ça, ici, sur Courbevoie, finissent par concerner l'ensemble de la ville. Voyez.
Mm-hmm. Mais ça, il faudra le négocier, j'imagine.
C'est très cher, en plus, ça coûte des fortunes de faire ça. C'est cassé, c'est énormément de... c'est très lourd, c'est des viaducs, des piles, des souterrains, des trucs très très chers. Donc on est en train de casser ça.
En fait, les bonnes idées d'hier sont les mauvaises d'aujourd'hui.
Pas nécessairement, c'est des idées qui ont marché quelquefois. Donc elles ont marché, elles ont joué leur rôle. C'est-à-dire que essentiellement c'est un quartier qui a été fondé dans les années 60. 60, ça fait quand même 50 ans maintenant. Donc il y a beaucoup d'idées qui ont changé, de comportement, et depuis 50 ans, on n'y avait pas touché. Donc il n'est pas normal qu'aujourd'hui on le fasse bouger, on casse certaines choses qui ont été construites. Sachant qu'en France en particulier, et en Italie aussi d'ailleurs, il y a ce sentiment de la pérennité bâtie. Quoi. C'est-à-dire, quand on construit un truc, ici, on veut que ce soit pour toujours. Quoi. Quand vous dites ça à un Américain, ça fait rigoler. Quoi. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, une tour, ça a une durée de vie de 30 ans. Quoi. Au bout de 30 ans, jamais on conserve une tour. En démolition, on fait une autre. Donc le renouvellement du bâti, qui est une nécessité dans la respiration des villes est beaucoup plus lent sur les territoires d'inspiration latine, quoi, comme nous, que sur les territoires d'inspiration anglo-saxonne, qui ont une idée du renouvellement beaucoup plus rapide. Nous, on a une idée patrimoniale du bâti. Quoi. On veut que, quand on possède un truc et qu'on l'a fait, on voudrait que ça dure toujours. Et donc, du coup, ça s'applique aussi aux notions d'urbanisme. On imagine que ce truc qu'on a construit en 1960, ben, c'est pour toujours. On s'aperçoit à un moment que ça ne marche plus. Mais la résistance au renouvellement est plus grande. Donc au lieu de le casser tout de suite, ben on va attendre 10 ans avant de le casser. Quoi. On fait durer.
Oui, parce qu'en fait, faut s'adapter aux enjeux. Quoi. Autant à l'époque, c'était construire... Enfin, oui. Ce que vous expliquiez pour le logement social, construire très vite, etc. Et puis maintenant, ça, c'est plus la même perspective. Voilà.
Et on a une implication en France, par rapport aux autres pays, de la puissance publique toujours plus importante. Quoi. C'est-à-dire l'État est toujours partout, quoi. Dans toutes les affaires de la vie privée ou de la construction, il y a toujours quelque chose de l'État quelque part. Alors que dans les systèmes anglo-saxons, l'initiative privée est toujours beaucoup plus en pointe que les organismes publics. Alors ça a des inconvénients et ça a des avantages. C'est-à-dire les avantages, par exemple, que l'État soit toujours présent, assure la pérennité des idées. C'est-à-dire le fait qu'une idée ait duré 50 ans, par exemple, c'est le fait que l'État soit là. Si ce territoire avait été uniquement soumis à l'initiative privée, comme les Docklands à Londres, par exemple, il se serait renouvelé beaucoup plus vite. Mais par contre, donc ça c'est plutôt un inconvénient. Mais par contre, le fait que l'État soit là fait qu'avant de construire la première tour à la Défense, on avait amené le métro. Et que l'État avait investi dans les transports publics. Et que ça fait que dès que les premiers bâtiments ont ouvert, les infrastructures étaient bâties. Alors qu'au Dockland à Londres, par exemple, quand les premières tours ont été construites, on ne savait pas comment y aller. Quoi, parce qu'il y avait une route de banlieue pourrie, l'État n'avait pas mis un sou là-dedans. Et comme le privé ne mettait pas d'argent dans les infrastructures, on avait construit un quartier d'affaires, un des plus grands d'Europe, auquel on ne pouvait pas accéder. Il a fallu attendre 10 ans pour que la première ligne de métro soit bâtie. Et donc c'est des choses qui se discutent. Quoi. On cherche l'équilibre entre l'influence publique et privée sur ces quartiers.
Donc en fait, vous pensez qu'en France, l'État, c'est un acteur dans la construction des tours dont on ne peut juste pas se passer.
D'abord, il est présent partout, comme vous le voyez, c'est lui qui régule tout. C'est même lui qui crée une loi d'exception pour la Défense. Hein. Mmh. Il est présent partout, mais il est présent aussi dans la régulation des transports, dans la régulation des infrastructures, la régulation des services, les équilibres. Par exemple, l'État, c'est lui qui dit aujourd'hui que si vous prenez la région parisienne comme je vous l'ai dessiné, si ça c'est l'Ouest et l'Est, on a trop construit à l'Ouest et pas assez à l'Est. Donc l'État va dire, voilà, je tire un trait là, ici on ne construit plus, et puis là on va mettre le paquet.
D'accord. Oui, ça, il n'y a que l'État qui peut.
Qui peut dire des choses comme ça. Et il va mettre en place toute une série de politiques incitatives pour que les gens se construisent davantage à l'Est, alors qu'ils considèrent que l'Ouest est déjà suffisamment bâti.
Ça va être des films publicitaires, ça va être.
Les politiques d'incitation. C'est une politique d'incitation sur les documents d'urbanisme, sur les subventions, les investissements publics sur les infrastructures, etc. Par exemple, là, l'État a développé des villes nouvelles. On parle de ce qu'on appelle Seine-Amont, c'est-à-dire toute la Seine ici, tout le territoire de la Seine va être fortement subventionné pour assurer son développement, pour inciter l'Est à se développer. Il y a une politique sur les villes nouvelles aussi. On pousse la ville de Marne-la-Vallée qui est à l'Est, la Seine-et-Marne, le département de l'Est. On pousse la construction de Vatry, c'est-à-dire l'aéroport de fret qui est à l'Est. On subventionne lourdement la ligne TGV de l'Est en la faisant aller jusqu'à Metz maintenant et bientôt jusqu'à Strasbourg, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on met le paquet sur les investissements et les incitations à l'Est.
Mais après, l'État ne peut pas faire tout seul. Il a besoin d'autres acteurs, d'entreprises qui investissent, etc. Ce que vous disiez, par exemple, pour les logements sociaux, comme quoi c'était pas possible d'en faire comme ça, que l'État s'en charge entièrement. Et qui sont les acteurs principaux qui vont après venir construire? Donc à la Défense, j'imagine que c'est principalement des grandes entreprises, mais par exemple, pour construire des tours de logement ou des tours mixtes, qui va être intéressé pour construire des tours mixtes?
La Défense, ce sont des opérateurs privés. Hein.
Mais est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples emblématiques?
Oui, vous avez mon client favori, par exemple, qui est Unibail, qui est une des plus grandes foncières européennes maintenant. Donc foncière, ça veut dire que ce sont des fonds d'investissement qui investissent dans la construction et qui restent propriétaires des immeubles qu'ils ont construits. Contrairement au promoteur, le promoteur construisant un immeuble ou pour lui-même ou pour le compte de quelqu'un, et le vendant une fois que l'immeuble est construit. C'est-à-dire qu'il n'en reste pas propriétaire. Et pour moi, d'ailleurs, en tant qu'architecte, ça change énormément, parce que moi, je préfère travailler pour quelqu'un qui garde en propriété l'immeuble, parce qu'il a évidemment des critères de qualité sur la construction que le promoteur n'a pas. Mm-hmm. Un promoteur, il construit l'immeuble, puis il s'en débarrasse. Enfin, c'est pas un mot que je devrais employer, mais disons, il le vend.
Il faut qu'il arrive à le vendre.
Mm-hmm. Mais une fois qu'il l'a vendu, ce qui arrive à l'immeuble, c'est plus un problème, quoi. Tandis qu'une foncière comme Unibail, par exemple, qui reste propriétaire des immeubles, évidemment, se préoccupe de la qualité, de la durabilité, de la pérennité des choses. Et moi, quand je fais des projets pour Unibail, on choisit toujours dans les matériaux et les dispositions ce qu'il y a de mieux. Mm-hmm.
Et Unibail, qu'est-ce qu'ils construisent en général? Est-ce qu'ils se spécialisent plutôt, enfin, qu'est-ce qu'ils font construire plutôt à la défense, ou est-ce qu'ils construisent aussi ailleurs? Par exemple, votre tour à Issy-les-Moulineaux, c'est aussi Unibail?
Non, ça, c'est la BNP Immobilier. Alors, Unibail, ils sont les secteurs d'activité d'Unibail sont les tours de bureau, et je crois qu'ils sont propriétaires d'un tiers de la défense, quelque chose comme ça.
Ah, oui.
Ils sont propriétaires du CNIT, ils sont propriétaires du Cœur Défense, ils sont propriétaires de la Tour Ariane, ils sont propriétaires d'une grande partie de la défense, ils sont des bureaux. Ils sont leur activité, ce sont les parcs des expositions, ils sont propriétaires de la Porte de Versailles, le parc d'exposition de la Porte de Versailles.
Et ils ne sont pas liés à la Tour Triangle ?
Ben si, c'est sur, leur terrain.
Ah,
et, c'est eux qui ont, quand ils sont allés chercher Herzog et de Meuron pour faire une proposition.
D'accord.
Et donc, c'est les tours de bureau, les parcs, les centres d'exposition et les centres commerciaux. C'est le leader, c'est le premier opérateur européen maintenant de centres commerciaux.
Ils ont des concurrents ?
Ils sont propriétaires, par exemple, du centre commercial des Halles. Ils sont propriétaires du centre de Sénart, ils sont propriétaires de tous les plus grands, centres, de la part du à Lyon, les plus grands centres commerciaux. Et là, ils ont acheté le deuxième plus grand promoteur de centres commerciaux d'Europe, qui était hollandais, qui s'appelle Rodamco. Maintenant, il s'appelle Unibail Rodamco.
D'accord.
Et je fais pour eux, actuellement, j'ai fait le centre commercial de Sénart, pour eux, dans la ville nouvelle, c'est un très grand centre. Et je construis pour eux à Lyon actuellement un centre qui s'appelle le pôle de loisirs et de commerce sur la partie de Confluence à Lyon. Voilà, donc il va et fait ça.
Et il y a d'autres fonds d'investissement qui se spécialisent dans d'autres domaines, ou est-ce que Unibail a des concurrents? Enfin, parce que s'il a un tiers de la défense, je pense que ça doit être quand même un acteur vraiment majeur. Oui. Mais, est-ce que...
Oui, ils ont toutes les banques, les grandes banques françaises sont des acteurs immobiliers, hein, Société Générale, BNP.
Ce sont
tous des acteurs de l'immobilier.
Des promoteurs ou...
Alors, ils interviennent soit au titre d'investisseurs, c'est-à-dire qu'ils mettent des fonds, ils demandent des rentabilités sur les fonds investis. Hein. C'est ce que fait Unibail, hein, essentiellement. Ou bien ils ont des filiales de promotion. Par exemple, si vous prenez la BNP, elle intervient au titre d'investisseur, au titre de la banque d'investissement, et elle a Meunier et BNP Immobilier, qui sont ses filiales de promotion immobilière, qui construisent dans les bâtiments.
D'accord.
Vous avez en plus des grands fonds de capitalisation mondiale, puisque vous le savez aussi, la France est un pays qui était très en retard sur les fonds de pension, qui n'en avait pas jusqu'à il y a 4 ans ou 5 ans, alors que tous les grands pays du monde en avaient. C'est-à-dire, la France a toujours un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que la retraite d'une génération est financée par la retraite par la génération qui travaille, et ainsi de suite. Voilà. C'est un système qui marche tant qu'il y a plus de personnes qui travaillent que de gens à la retraite. Et c'est un système qui marche tant que la succession de générations se fait finalement. S'il y a une rupture de chaîne à un moment donné, le système s'effondre. C'est ce qui s'est passé en France, puisqu'il y a aujourd'hui, à cause de gens comme moi, plus de gens de la génération du baby boom que de gens qui financent la retraite des gens. Donc le système ne marche plus. Et ce système, on n'a pas voulu le moderniser pendant de nombreuses années. Et on n'a pas créé de fonds de capitalisation, c'est-à-dire de retraite par capitalisation, c'est-à-dire de fonds qui sont que les individus, chaque salarié, met de côté volontairement pour constituer un fonds qui sera utilisé pour capitaliser une rente de retraite. Bon, la plupart des pays du monde ont ces fonds par capitalisation, la France ne l'avait pas. Mmh. Ces fonds par capitalisation, qui sont essentiellement américains, allemands, hollandais, espagnols, constituent des fonds japonais. Ce sont des fonds énormes, c'est-à-dire que c'est des centaines de milliards d'euros ou de dollars qui circulent. Et ces fonds, évidemment, servent à payer la retraite de tous ceux qui ont participé à la constitution du fonds. Donc ces fonds s'investissent dans des projets pour lesquels ils demandent des rendements garantis. Mmh. Et le secteur immobilier, pour eux, est un très bon secteur, puisque ce sont des rendements longs et qui sont des rendements corrects. Et donc on voit circuler des fonds d'investissement de retraite. Il y en a un des plus célèbres en France, par exemple, s'appelle Colony Capital, qui est un fonds américain, et qui s'investit sur des projets immobiliers. en demandant, en exigeant un rendement minimum qui est de l'ordre de 6%, 7% sur le fonds investi. Donc ça, ce sont des concurrents d'Unibail. C'est-à-dire que, et la France, donc, qui était en retard, s'y est mise tardivement, mais commence à avoir des petits fonds, quoi, plus petits que les autres.
Mais il y a les fonds étrangers qui interviennent quand même.
Oui, mais les Français se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, en restant têtus, pour pas dire idiot, sur ces fonds par répartition, ils enrichissaient les veuves du Texas et que ça commençait à devenir un peu bête, quoi, que les rendements français allaient enrichir des gens qui n'avaient pas participé à l'accroissement de la richesse du pays. Et donc ils s'y sont mis avec retard.
Voilà.
Vous verrez, vous rendrez compte petit à petit que vous viviez dans un pays extrêmement conservateur. Compte sur vous pour faire bouger les lignes. Moderniser tous les jours. Voilà, donc ces fonds d'investissement s'intéressent et constituent des concurrents. Donc il y a un grand fonds espagnol dont on a beaucoup parlé qui s'appelle Gecina. Il y a des fonds hollandais, puisque les Hollandais ont une retraite par capitalisation depuis très longtemps. Il y a des fonds allemands importants. Et ces fonds achètent des immeubles, il y a des fonds américains. Moi, souvent, quand je construis des immeubles, ce sont là, par exemple, je viens de finir un gros immeuble à Bois-Colombes qui est loué à IBM. Et c'est une société de Boston qui s'appelle Beacon qui vient d'acheter l'immeuble.
Et ces fonds d'investissement, est-ce qu'ils achètent les immeubles une fois construits ou est-ce qu'ils les commandent?
Non, ils achètent une fois bâti.
Oui, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et par contre, les fonds d'investissement ou les banques, ils les font construire.
Oui, parce que ces fonds dont je vous parle, en fait, eux. Ils s'intéressent à l'immobilier qu'en raison de la longueur et du montant du rendement. C'est-à-dire que eux, par exemple Beacon dont je vous parle, a acheté cet immeuble à Bois-Colombes. Une fois qu'il a vu la qualité de l'immeuble, qu'il a été rassuré sur le truc, il sait que pendant 20 ans, cet immeuble, il va investir 500 millions d'euros dans l'immeuble, et pendant 20 ans, ces 500 millions d'euros vont lui rapporter 7% sans risque.
Oui, parce que lui, justement, ne veut pas prendre le risque de la construction, de tous les problèmes qui pourront se poser.
Et en plus, il attendra de savoir si l'immeuble est loué, par exemple. Et là, il a attendu qu'IBM, par exemple, signe un bail de 9 ans avec l'investisseur original, qui était AXA, pour acheter l'immeuble.
D'accord. Qu'est-ce qui construit les tours?
Qui construit les tours?
Oui, physiquement.
Ben vous avez toujours, dans un processus de construction, vous avez toujours une trilogie. Hein. C'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais en gros c'est ça. Vous avez un investisseur promoteur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui met l'argent. Et c'est la personne qu'on appelle nous le maître d'ouvrage, qui peut être entouré d'un investisseur, d'un financier, etc. C'est-à-dire c'est celui qui donne le programme et qui prend la décision de bâtir et qui met l'argent. Voilà, ça c'est le maître d'ouvrage. Vous avez un maître d'œuvre, c'est-à-dire c'est celui qui conçoit l'immeuble et le dessine techniquement.
Là,
c'est moi. Enfin, moi je dirige une équipe avec de nombreux acteurs, des ingénieurs, des programmateurs, toutes sortes de gens. Mais l'architecte est la personne qui coordonne, c'est un peu chef d'orchestre de l'ensemble d'une équipe qu'on appelle l'équipe de maîtrise d'œuvre. Dont l'architecte n'est qu'un des membres, un des membres principaux, mais qu'un des membres. Donc moi je conçois l'immeuble, j'en fais les plans, je dessine, je le décris, je l'estime.
Vous faites l'aspect esthétique
Je fais des énormes dossiers dans lesquels il y a des milliers de plans pour le construire, etc. Voilà.
Par exemple, ce qui relève de l'isolation, ça sera quelqu'un d'autre?
Tout ça, c'est moi qui fais ça dans mon équipe,
etc. L'ingénieur. Ça va être l'ingénieur.
Tout ce qui relève du PLU, etc. Justement,
je m'assure que l'immeuble est bien conforme à la réglementation. Je garantis au maître d'ouvrage que l'immeuble que je construis obtiendra les autorisations administratives, etc. Donc ça fait un. Ça fait deux. Et trois. Il y a une des entreprises qui le construisent. Voilà. Donc ça, c'est Bouygues, c'est Vinci, c'est Eiffage, c'est les entreprises de construction. Voilà. Donc ces trois acteurs-là, si vous voulez, sont la configuration minimale d'un processus de construction. Il faut des gens qui programment et qui financent, il faut des gens qui conçoivent et font les plans, et il faut des gens qui bâtissent.
Voilà. Qu'est-ce qui choisit l'entreprise qui va construire?
Alors, ça dépend. C'est-à-dire que moi, je travaille pour le compte du maître d'ouvrage, c'est-à-dire mon contrat est pour le compte du maître d'ouvrage et je défends ses intérêts. Et l'entreprise ici signe un contrat de travaux avec le maître d'ouvrage et pas avec moi. Et moi, je dirige les travaux de l'entreprise pour le compte du maître d'ouvrage. Et cette entreprise est choisie la plupart du temps au terme d'un appel d'offres. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mes plans, moi, je constitue ce qu'on appelle des DCE, des dossiers de consultation d'entreprise, qui sont soumis aux appels d'offres. C'est-à-dire que les entreprises les prennent et font une proposition au maître d'ouvrage en disant, voilà, je vous construis cet immeuble tel que l'architecte l'a conçu pour tel prix et tel délai. Et les entreprises sont en concurrence en général les unes avec les autres.
Ça doit prendre longtemps d'estimer ce que va coûter la tour.
Oui. Ouais. Là, on va lancer un appel d'offres pour. Là, on a une tour en construction au Maroc, pour Maroc Télécom, et on a eu 6 mois d'appel d'offres.
D'accord.
Et vous, j'imagine que ça doit varier énormément d'un projet à l'autre, mais disons pour un projet moyen, enfin pas pour une énorme tour ou pour un tout petit bâtiment, mais en moyenne, ça vous prend combien de temps toute cette phase de conception?
Pour étudier la tour?
Oui, pour étudier la tour.
Entre le moment où le maître d'ouvrage me contacte pour me dire voilà, on va étudier telle tour, je vous confie un contrat, etc., et le moment où j'arrive au DCE ici, il ne peut pas se passer moins d'un an, quoi. Okay. Un an minimum. Et ensuite, entre le moment ici où on a choisi l'entreprise et le moment où l'entreprise donne les clés du bâtiment au maître d'ouvrage, il faut rajouter au moins 2 ans à 3 ans. Quoi. C'est-à-dire un processus complet de construction, vous voyez. Entre le moment où on va avoir l'idée de faire un bâtiment et le moment où on va donner les clés au client, c'est pas moins de 4 ans. Quoi. C'est minimum, hein. Ça peut être 5, ça peut être 6.
Et c'est en supposant que tout se passe bien.
Que tout va bien, qu'il n'y a pas de pépins, que tout arrive.
Le pire que vous ayez jamais fait pour un projet qui est venu à bout.
Le pire ou le mieux?
Les deux.
Les deux, voilà, pour qu'on ait une fourchette.
Le Cœur Défense, par exemple, les deux tours blanches que j'ai construites, j'ai gagné le concours d'architecture en 1989. C'est un concours international d'architecture. Et elles ont été livrées en 2001. Donc ça fait 12 ans plus tard, c'est ça?
Voilà. Ouais, ça fait vraiment. En même temps, est-ce que c'était pas un peu spécial parce que c'était un concours?
Si, parce qu'il y a un concours, puis il y a eu la crise de 92, donc ce projet s'est arrêté pendant 5 ans. Il est resté sur l'étagère pendant 5 ans, mais il y a une crise.
Ouais. Voilà.
Et le mieux que j'ai fait, la tour du Maroc, là, on va mettre 4 ans, 25 ans, 4 ans, 4 ans et demi. C'est le siège social de Maroc Télécom, qui est une filiale de Vivendi.
Un projet peut reprendre après une crise.
Un projet peut reprendre après une crise.
Parce que par exemple, en ce moment, il y a énormément de projets à la Défense.
On parle de beaucoup de projets qui sont gelés.
Il y a des projets qui sont tués par la crise. Hein.
Ouais.
Vous voyez, par exemple, la tour Signal, à mon avis, il est mort. Hein. Donc,
c'est mort. À ce point. Hein? À ce point, il avait même.
Déjà, le promoteur, qui est le financier qui avait participé, a fait faillite. Donc,
c'était Midea.
Oui, espagnol, il a fait faillite, donc il a disparu. Donc, déjà, la tour n'a plus de financier. N'a plus personne qui veut la financer, la construire, déjà. Donc là, déjà, il faut retrouver un autre financier. Et donc, si on retrouve un autre financier, de toute façon, le financier va imposer ses conditions à l'architecture, à l'architecte. Mmh. Il faudra modifier le projet, il faudra en faire un autre.
Étant donné que c'était un concours, ils ne peuvent pas décider de prendre le second?
Ça arrive, mais là, ça ne se passera pas comme ça. Puisqu'il n'y a pas eu de second, de toute façon.
Oui, c'était...
Moi, j'ai participé, il y a eu 8 projets. J'ai été un des 8 projets, j'ai fait un des 8 projets.
Et vous faites beaucoup de concours comme ça, parce que ça doit prendre énormément de temps,
concours,
et au final...
On en fait tout le temps.
Tout le temps.
On en gagne 1 sur 5, sur 6, quand on a de la chance.
Et vous avez quand même des revenus, ou c'est à perte les concours?
Les concours, au mieux, c'est on équilibre les dépenses. Mm-hmm. C'est-à-dire que les indemnités que versent les organisateurs du concours, dans le meilleur des cas, vous payent l'argent sec que vous avez dépensé. La dépense directe. Et dans le pire des cas, vous pouvez laisser les grosses ardoises.
Parce que si vous vous investissez à fond dedans et que mais, vous n'avez pas...
Mais tout dépend de la réputation des agences. Moi, par exemple, maintenant, la réputation de l'agence ici, je ne participe pas à perdre un propos. Quand un promoteur me demande de faire un projet et que je sais que je vais perdre d'argent, je dis non, je ne le fais pas. Je dis, si vous voulez un projet de moi, vous me payez telle somme, parce que ça correspond à l'argent que je vais mettre pour faire les études. Vous me payez au moins ce que je vais dépenser.
Dans l'équipe de maîtrise d'ouvrage, il y a des financiers.
Oui.
Il n'y a pas d'ingénieurs ou de financiers. Si, il y en a, il y en a déjà à ce niveau. Enfin, est-ce qu'ils peuvent vous donner, par exemple, un cahier des charges un peu technique, ou est-ce que c'est vous qui le faites complètement?
Non, ils me donnent un cahier des charges et un programme, surtout. C'est-à-dire le premier devoir d'un maître d'ouvrage, c'est de donner le programme, c'est-à-dire de dire ce qu'il veut bâtir. Pas moi qui le dis, c'est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage vient me trouver en me disant, voilà, je veux bâtir, si c'est une tour de bureau, il me dit, voilà, je veux bâtir tant de mètres carrés de bureau, je veux bâtir des bureaux de telle sorte, pour tel type d'usage, etc., pour tel prix, pour tel budget. C'est-à-dire, le maître d'ouvrage me donne son programme et son coût.
Mm-hmm. Vous lui proposez plusieurs projets ou un seul?
Oui, ça arrive. Ouais. Ça arrive. Par exemple, mon maître d'ouvrage pour le Cœur Défense, puisqu'on parlait de ça, c'était Nathalie Charles, qui est ingénieure des ponts et chaussées, hein. Et qui maintenant est directrice d'immobilier d'EDF. C'est une jeune femme qui est ingénieure des ponts. Donc vous pourrez peut-être un jour être maître d'ouvrage, pourquoi pas. Et un de mes maîtres d'ouvrage à la BNP, c'est Viviane Lévy-Garbois, qui est ingénieure des mines.
D'accord, donc ouais, ça vaut. Enfin, est-ce que vous. Vous travaillez encore, enfin, pendant votre phase de conception, est-ce que vous travaillez encore avec eux ou est-ce qu'ils vous donnent le programme au début?
Ah non,
et après, vous êtes tout le temps en relation.
C'est un mariage forcé, quelquefois, mais un mariage. Et d'ailleurs, de la qualité de cette relation naît la qualité du projet. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais fait un bon projet si je ne m'entends pas bien avec mon dos, et inversement. Donc, il faut qu'on se fasse vraiment confiance qu'on se tire mutuellement, Parce que là, sur des projets de tour, par exemple, on a des objectifs d'excellence, quoi. Il faut être le meilleur partout, quoi. Il faut avoir des A+ partout, quoi.
Donc, ça peut poser des problèmes s'il n'y a pas une bonne entente, hein, pour le maître d'ouvrage.
D'ailleurs, d'une manière générale, moi, les projets les plus difficiles que j'ai, ce sont des projets où le maître d'ouvrage ne s'intéresse pas à ce qu'il fait, quoi. Ce qui m'est arrivé. Par exemple, j'ai eu construit des logements sociaux pour des sociétés de logements sociaux qui m'ont passé une commande, un contrat, et que j'ai plus jamais vu pendant que je faisais le projet. Donc ça, c'est très inconfortable pour moi. Pas du tout. Et ça, dans tous les métiers, c'est un peu la même chose. C'est, je sais pas, par exemple, un écrivain sans éditeur, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Et en plus, moi, je fais des projets, je ne fais pas des projets pour qu'ils restent dans les cartons. Les projets que je fais, je l'ai fait pour les bâtir. Alors, il arrive que je les perde, c'est-à-dire que je fais un projet que personne ne veut construire, ou qui ne marche pas, ou qui perd un concours, mais chaque fois, ça me sert. C'est-à-dire l'échec est la base de mon prochain projet, toujours.
Par exemple, le projet que vous avez présenté pour la Tour Signal, vous pourrez le réutiliser?
Bien sûr, parce qu'il explore la question de la mixité dans une tour, qui est une question très difficile et sur laquelle il faut faire son apprentissage. Même si j'ai perdu, j'ai appris beaucoup de choses sur la question de la mixité. Et mon client aussi, puisque je l'ai fait avec BNP Immobilier, qui n'avait jamais étudié une tour mixte. Et donc, ils se sont déniaisés avec ça, parce que pour eux, la question de la mixité est une question pleine d'interdits. Et surtout, en raison des copropriétés, les investisseurs détestent les copropriétés. Parce qu'ils veulent toujours être en mesure de décider seuls de l'avenir d'un immeuble. Et une copropriété implique des décisions partagées.
D'accord. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Merci beaucoup.
Oui,
c'était vraiment très 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 instructif. Merci de bien avoir.
Bon courage.
De nous avoir reçus, quoi. Parce que franchement.
Ça va nous aider.
Voilà. Je pense qu'on part sur de très très bonnes bases.
Vous allez voir d'autres architectes ou
Non, j'ai pas eu. C'est moi qui me suis chargée de contacter les architectes et ils sont assez fermés, on va dire.
Ouais. Moi j'ai fait des études aux États-Unis longuement Et j'étais étudiant à Harvard, j'étais étudiant à MIT, je travaillais aux États-Unis. Et quand j'étais étudiant, je faisais ce que vous faites là. Souvent, j'allais voir les architectes, j'allais voir mes aînés, j'allais voir des tas de gens. Et chaque fois que j'avais besoin de quelque chose ou que je demandais, y compris à des architectes très célèbres de me recevoir, ils m'ont toujours reçu, moi, petit étudiant. Et j'ai toujours été très profondément admiratif de ça, parce que ça m'a beaucoup aidé, moi. Et j'ai toujours été très reconnaissant de cette générosité qu'avaient les Américains pour ça. Et les Français, eux, en général, vous avez vu l'accueil que vous avez. Donc c'est peut-être lié à cette histoire personnelle que j'ai, moi, avec cette question. Donc je le fais, parce que, en plus, j'aime bien discuter avec des gens comme vous, qui m'apportent un autre éclairage sur les choses, donc ça m'intéresse. Ouais.
Ouais, vraiment, merci beaucoup, parce que c'est... Enfin, on a de la chance, quoi.
Ouais, je pense qu'on a de la chance.
Parce que je crois que je vais envoyer un mail à peu près à 30 architectes.
Ouais.
Et, enfin, c'est vraiment très bien.